coq chante et les jours paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, dans le Coq Chante, nous allons vous parler de la lutte contre la chenille et les genêts dans deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso et le Togo. L'affaire est sérieuse, comme on va le voir. En réalité, il s'agit d'un simple papillon. Les problèmes commencent à l'éclosion des œufs de ce papillon, car l'insecte est à l'état de larve. Le papillon adulte peut parcourir plus de 5 km en une nuit. Il pond ses œufs sur les plantes, à partir desquelles les larves éclosent et se nourrissent. Cette chenille peut se nourrir sur plus de 80 essences végétales cultivées ou sauvages, dont le maïs, le riz, le sorgho, le millet, la canne à sucre, le coton, etc. Même si elle a une nette préférence pour le maïs. Des infestations élevées peuvent entraîner une perte de 15 à 73% si 55 à 100% des plants sont infestés. En un mot, le producteur peut perdre jusqu'à 50% de sa récolte. Détecté pour la première fois en Afrique centrale et occidentale au début de 2016, ce fléau s'est rapidement répandu dans d'autres sous-régions du continent africain. À ce jour, 44 pays sont touchés. Voyons la situation au Burkina Faso avec Salifou Witlango, ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles. Dans ce pays, le secteur agro-silvopastoral est très important puisqu'il génère 35% du PIB et emploie 82% de la population active. Au Sahel, en général, la culture céréalière a une importance capitale dans l'alimentation. 90% des besoins caloriques de la population viennent de l'apport céréalier, avec en moyenne 180 kg consommés par personne et par an. Au Burkina Faso, la plus grande partie du pays est couverte de champs de mil, de sorgho et de riz. Ajoutons qu'au Burkina Faso, le coton est la première culture d'exportation. Les revenus cotonniers représentent entre 55 et 70% des recettes d'exploitation burkinabé selon les années, contribuant pour 40% au PIB intérieur brut et faisant vivre près de 3 millions de personnes en milieu rural et près d'un quart de la population nationale. Pas besoin de longues explications pour comprendre la catastrophe que représente l'invasion de cette chenille légionnaire.
La situation de l'infestation de la chenille légionnaire au Burkina Faso est de 25% au niveau des productions végétales.
C'est un sujet critique.
Oui, c'est un sujet critique. C'est une chenille qui peut parcourir 100 km à la ronde. Ce qui veut dire que il faut une lutte intégrée, globale, avec l'ensemble des pays.
Lutte intégrée, ça veut dire que d'abord, il faut lutter contre cette chenille au niveau de larves et au niveau des papillons. Et intégrée, ça veut dire tous les moyens.
Oui, intégrée, ça veut dire mettre tous les moyens pour permettre d'arrêter ce phénomène. Parce que vous savez, dans tous les pays, le phénomène existe. Au départ, en 2016, c'était 4 pays en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à 44 pays. Ce qui veut dire que la progression est énorme. Et c'est pour ça que dans chaque pays, il y a de bonnes pratiques qui ont été mises en place pour lutter contre cette chenille. Si nous prenons l'exemple du Burkina Faso, ici, nous avons mis en place toute une stratégie pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Nous avons mis en place dans toutes les zones des brigades de surveillance. Au-delà des brigades de surveillance, il y a des brigades d'intervention pour vraiment lutter contre le phénomène. Également, nous avons mis en place dans les villages des champs-écoles qui permettent aux paysans de pouvoir apprendre comment lutter contre la chenille légionnaire afin de l'appliquer dans leurs champs. Mais nous avons mis ce qu'on appelle en place des systèmes de communication que nous appelons le 3-2-1, qui est un système où les paysans peuvent avoir accès à l'information.
À C'est-à-dire que cette plateforme 3-2-1 me permet de savoir quel est l'état d'infestation, quel est l'état végétatif de mon champ, quel est le seuil critique et quelle est la bonne pratique adaptée à ma situation.
Le 3-2-1 permet aux paysans de pouvoir avoir accès à des techniciens pour pouvoir savoir quel est l'itinéraire technique que je dois prendre pour pouvoir m'assurer que mon champ se comporte bien, pour pouvoir m'assurer que ma production va être va bien donner. Donc, et ce 3-2-1 permet non seulement aux paysans d'avoir accès aux techniciens, mais également à partir des messages vocaux, savoir comment je dois me comporter en face d'un problème que je vis.
Ben, c'est tout à fait normal que vous ayez ce souci, parce qu'il faut un technicien qui connaisse les mœurs du planteur et qui parle le langage des paysans.
Oui, exactement, exactement. Parce que nous sommes en train vraiment de mettre l'accent dans cette virgalisation, parce que c'est l'avenir. On ne peut pas avoir suffisamment de techniciens pour être tout le temps aux côtés des paysans.
Mais tout cela coûte de l'argent, ça pèse sur le budget de vos ministères.
Si on fait la comparaison, il y a beaucoup plus d'intérêt à permettre aux paysans de pouvoir produire de façon rationnelle, de pouvoir mettre en place ces systèmes techniques et de pouvoir augmenter sa production.
Les chercheurs ont dit tout à l'heure que si on refuse de mettre $1 dans la prévention, on mettra $16 pour réparer les dégâts.
Oui, effectivement. C'est pourquoi on dit l'urgence a toujours coûté très très cher. Alors que si on anticipe pour ne pas atteindre l'urgence, ça permet d'économiser de l'argent. Nous, on ne connaissait pas la chenille légionnaire. Elle est venue d'Amérique et elle s'est propagée sur toute l'Afrique. Maintenant, il faut qu'on trouve une stratégie de réponse adaptée. Sinon, ça peut créer des problèmes d'insécurité alimentaire. Donc, il faut déjà juguler le problème et trouver les solutions les plus adaptées pour permettre aux paysans de produire sereinement et pouvoir permettre aux différents pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel de pouvoir aller véritablement vers la sécurité alimentaire.
Je vous remercie.
Merci.
Après le Burkina Faso, un pays voisin, le Togo. Au Togo, l'agriculture tient un rôle prépondérant. Elle occupe la majorité de la population et produit 42% de la richesse nationale. Le territoire du Togo est à 25% cultivé. L'agriculture assure en grande partie la sécurité alimentaire des Togolais. Le secteur rural fait vivre environ 80% de la population. Les cultures sont très diverses, mil, sorgho, maïs, manioc, igname, cacao, café, karité. Le coton est la principale culture industrielle et le premier produit d'exportation agricole. On remarque aussi que ce sont les petites et moyennes exploitations qui dominent. Depuis plusieurs années, le secteur agricole au Togo bénéficie d'énormes investissements de la part de l'État et des partenaires au développement, surtout en milieu rural. Pour ce faire, plus de 600 milliards de francs CFA ont été prévus pour le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. À travers la politique des agropôles, ce pays est parvenu à une autosuffisance alimentaire à peu près complète. Et c'est dans un tel contexte que surgit la chenille légionnaire. Konushi Kukovi est ingénieur agronome. Il travaille à la direction de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique.
Pour ce qui est du Togo, nous avons, grâce à l'appui de la FAO, à travers un TCP, faire une évaluation dans la région maritime de notre pays. Parce que
vous savez que je vais vous demander ce que c'est qu'un TCP.
Un TCP, c'est un projet de coopération technique. Donc au niveau de la FAO, on l'appelle TCP Facility, c'est-à-dire que c'est un programme rapide d'urgence. Donc ça nous a permis de faire l'évaluation parce que les fonds étaient limités. Donc on a fait l'évaluation dans la région maritime, c'est-à-dire le sud, la région au sud directement, et qui a montré que les taux d'infestation dans les champs dépassent les 55%.
Ce qui est grave.
Oui, très grave. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le ravageur a une forte capacité de dispersion et une forte capacité de prolifération. Donc dans nos régions, il peut avoir 6 générations par an. Et durant sa vie, la femelle peut pondre jusqu'à 2000 œufs. Les taux d'éclosion vont jusqu'à 90%, voire 100%. Donc ça veut dire que quand il pond 2000 œufs, on a près de 2000 qui se transforment en larves ou près de 1800 qui se transforment en chenilles. Et ce qui est encore inquiétant, c'est que en une nuit, ce ravageur peut parcourir plus de 500 kilomètres.
Ah, c'est-à-dire que le papillon, il se déplace la nuit.
Il se déplace la nuit, il peut parcourir plus de 500 km. Ça veut dire qu'en une nuit, il quitte Lomé, il arrive sur le sol burkinabé.
Et il va pondre là-bas aussi.
Et il va pondre.
Les chercheurs eux-mêmes parlent de contenir le ravageur dans un programme d'urgence, ce qui donnera le temps de le contrôler parce qu'il semble illusoire de vouloir l'éradiquer.
Non, on ne peut pas l'éradiquer. On ne peut pas parce que le continent américain a 100 années de gestion de ce ravageur. Et quand on le voit avec leurs technologies qui sont poussées, ils n'ont pas réussi. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de le gérer. Et puis quand le ravageur est entré en Afrique, il a retrouvé des conditions de vie favorables, ce qui lui permet de s'établir durablement. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de le gérer. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes de lutte qui sont là. Il y a les pratiques culturelles, il y a la lutte mécanique, il y a la lutte biologique, parce qu'il y a un fort potentiel d'ennemis naturels qui sont là, qui peut contribuer à réduire sa population. Et il y a la lutte chimique, par l'utilisation des pesticides.
Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce que vous appelez les techniques agricoles, c'est-à-dire quand je mets du maïs, il envahit, et l'année suivante, je mets autre chose.
Oui, voilà, il y a la rotation culturelle, il y a aussi la préparation du sol pour pouvoir mettre à nu les chrysalides qui sont dans le sol.
Donc dès qu'ils sont à nu, dès qu'on a labouré, qu'ils sont à nu, ils meurent.
Il y a le soleil, il y a aussi quelques ennemis naturels, prédateurs qui peuvent aussi s'attaquer à cette phase-là du ravageur.
Donc la lutte biologique, c'est-à-dire je cherche qui mange cette larve, oui, cette chenille.
Bien sûr, on a retrouvé les ennemis naturels. Par exemple, quand vous prenez Telonomus remus.
C'est quoi ça?
C'est un ennemi naturel qui s'attaque aux œufs du ravageur. Donc,
à lui, c'est la phase des œufs qu'il mange.
Oui, il y a aussi des ennemis naturels qui mangent les chenilles. Donc, il y a aussi les prédateurs. On a vu des coccinelles qui s'attaquent à ces chenilles-là. Il y a même aussi les champignons. Les champignons entomopathogènes qui s'attaquent à cette chenille.
C'est-à-dire que les champignons prolifèrent sur la chenille et l'empoisonnent.
Et l'empoisonnent. Il y a aussi des virus qui sont là, dans la terre. Il y a aussi même des nématodes. Donc c'est pourquoi je dis...
Les nématodes, c'est quoi?
Les nématodes, ce sont des vers microscopiques.
Donc, des vers que nous, on ne voit pas.
On ne voit pas microscopiques. Donc qui s'attaquent à ce ravageur. Donc je disais qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer parce qu'il y a un fort potentiel de technologie qui peut nous permettre de contrôler le ravageur.
Et la lutte mécanique, c'est quoi?
La lutte mécanique, c'est l'écrasement manuel des larves. Vous les fouillez sur la plante et puis vous les récoltez, vous les écrasez. Donc je reviens sur mes propos pour dire qu'il y a un fort potentiel aujourd'hui. La clé de voûte, c'est-à-dire que la clé du succès de cette lutte-là, c'est la formation et la sensibilisation des paysans qui sont les premiers acteurs concernés par ce fléau.
C'est normal parce que c'est eux qui sont confrontés directement à ce fléau-là.
Voilà, donc une fois qu'ils seraient formés et sensibilisés, ils seront en mesure d'intégrer la gestion de cette chenille, de ce ravageur-là, dans leur système de production. Parce qu'aujourd'hui, dire à un producteur que tu dois aller au champ et passer toute la journée en menant l'activité de lutte contre la chenille dans une plantation de maïs. Ce n'était pas dans leur mentalité.
Ben, de toute façon, c'est tout nouveau.
Voilà, c'est ce que je dis. Donc, désormais, ils doivent apprendre à intégrer la gestion de ce ravageur-là dans leur système de production. Et surtout, ne pas avoir recours systématiquement aux pesticides, parce que ceux-ci ont fait recours systématiquement à ces pesticides-là, ça peut contribuer à diminuer la population des ennemis naturels qui est là, et puis ça peut aussi causer des sérieux problèmes de santé à l'avenir pour les producteurs, alors qu'on a besoin de qu'ils restent en bonne santé, valide pour pouvoir continuer à nourrir l'Afrique. Parce que il y a lieu quand même de s'alarmer, parce que cette chenille-là, vraiment, c'est un ravageur qui sème beaucoup de désolation chez nos producteurs, chez les paysans. Et vous-même, quand vous arrivez dans un champ infesté, hein, attaqué par cette chenille-là, vous êtes vraiment inquiet.
C'est cette inquiétude au sujet de la sécurité alimentaire qui a poussé les différents gouvernements à intervenir auprès des agriculteurs, et c'est le cas également au Togo.
D'abord, dès les premiers instants, il a mobilisé les services techniques sur le terrain pour apporter un soutien technique et matériel aux producteurs à travers la mise à disposition d'insecticides et puis d'appareils de traitement et d'équipements de protection individuelle.
Ah, parce que tout cela coûte cher pour un paysan.
Oui, oui, ça coûte cher pour le petit paysan, et c'est pour ça même d'ailleurs que le gouvernement a mobilisé des fonds. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a octroyé une ligne de crédit sur son budget d'investissement consacrée à la lutte contre la chenille légionnaire d'automne.
Et ça veut dire que dans un premier temps, vous, chercheurs sur le terrain, vous avez su convaincre les autorités. Et une fois que les autorités étaient convaincues de la gravité de la situation, elles ont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose.
Oui, bien sûr, je vous dis, la première sortie que nous avons faite a été sous l'impulsion du Premier ministre, et c'est les producteurs qui ont alerté. Et nous avons, en collaboration avec l'Institut togolais de la recherche agronomique, l'ITRA, on s'est rendu sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts. Et là, c'est en ce moment que tout le mécanisme est mis en marche. Aujourd'hui, nous avons cette chance-là que la CDAO a recommandé au pays de mettre en place des task forces. Et dans ces task forces-là, il y a la direction de la protection des végétaux, le service de la vulgarisation, la recherche, l'université et même les chambres d'agriculture qui participent aux travaux ou bien aux réunions de cette task force-là, où nous cherchons ensemble les approches de solutions à adopter pour lutter contre cette chenille.
Je vous remercie.
Merci.
À l'occasion de la conférence journale sur la lutte contre la chenille légionnaire d'automne qui s'est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso du 10 au 12 septembre dernier, nous avons discuté avec les responsables et les techniciens du secteur agricole dans deux pays, le Burkina Faso et le Togo. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.